Bonjour à tous et bienvenue dans le mug numéro 180. Nous sommes le 18 juin 2020 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce mug. Avec aujourd'hui un petit mug, assez équilibré au niveau du kawa. Pas de grosses news, mais on va parler pas mal de réseaux sociaux, on va parler un petit peu d'Instagram, on va parler de Facebook. Je vais vous présenter un truc que j'ai découvert sur Lightroom, que j'ai trouvé assez génial. J'ai pas envie que ça passe forcément non plus pour une publicité pour Lightroom, mais il n'empêche que cette fonctionnalité, je l'ai trouvée très intéressante, surtout pour les personnes qui font de la photo. Donc ça, on va en parler dans l'émission. Et après, on fera une petite tartine jeu de société. Vu que les vacances arrivent très bientôt, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de parler un petit peu de jeux de société. Moi, vous savez que je joue beaucoup à des jeux de société, que ça soit entre midi et deux, des fois au boulot, ou que ça soit avec les copains. Et ben voilà. Salut, bonjour à tous en tout cas. Hein. Salut Pierre-Yves, une Clémentine, Technisavoir, toujours présent, toujours là. Salut Laetitia, iMac, Gilles, Impec, Oleg, Jérôme est dans la chatroom, c'est incroyable. Samuel, toujours le petit 5 sur 5, c'est cool, vous êtes tous présents. Et ben c'est super, et on attaque sur le kawa. Et donc pour commencer ce kawa, nous allons parler de la nouvelle mise à jour majeure de Windows 10. Vous avez dû, normalement si vous êtes un utilisateur du système d'exploitation de Microsoft, vous avez dû avoir une mise à jour, et notamment cette mise à jour, vous l'avez sûrement pas loupé, pour la simple et bonne raison que Edge vous a été normalement proposé dès que vous avez rallumé votre ordinateur, le nouveau Edge, celui basé sur Chromium. J'avais fait une tartine Il y a un mois et demi à peu près, où je faisais un petit comparatif des navigateurs, et à titre personnel, je ne vous conseillais pas d'utiliser Edge, parce que Microsoft collecte énormément de données, et notamment Microsoft a un identifiant unique. Donc, autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que chaque URL que vous rentrez, chaque site que vous visitez, est stocké avec un identifiant unique qu'on peut lier à vous. Par Microsoft, voilà, ce qui à titre personnel moi est quelque chose qui me dérange, mais ça peut ne pas déranger des personnes et tout, donc ça il n'y a absolument aucun problème. Mais en tout cas, voilà, cette mise à jour de Windows 10 a apporté le nouveau Microsoft Edge avec le moteur Chromium derrière. C'est une news qui est assez intéressante en tant que développeur web, parce que ça veut dire que le web va de plus en plus aller vers Chrome et Chromium, vu que la part de marché de Firefox est assez faible, hein, aujourd'hui. Firefox, je sais plus, mais je crois que c'est moins de 20%, hein, sur le marché des navigateurs web. Ce qui est un petit peu inquiétant, parce que ça veut dire que moi je développe sur Firefox, par exemple, qui n'a pas le même moteur que Edge et Chrome. Ce qui fait que ça peut arriver que des fois certains développements sur Firefox ne fonctionnent pas exactement de la même façon sur Chromium. Et encore une fois, le problème de ça, c'est que, il y a certaines entreprises qui aient un petit peu la main mise sur le moteur Chromium, alors que derrière le moteur de Firefox, qui s'appelle Gecko, c'est une fondation qui a évidemment moins d'impact et moins de moyens. Donc voilà, moi c'est quelque chose, la concurrence est toujours une chose bénéfique, et pour le coup, avoir un seul moteur de rendu web, à la fois c'est une bonne chose parce que peut-être que ça pourrait simplifier et uniformiser le développement web, mais à la fois je suis un peu inquiet si Google ou Microsoft impose certains choix de développement. On l'a vu notamment avec les pages AMP de Google, qui sont pas terribles. Bon, j'en reparlerai dans une tartine, mais voilà, ça fait partie des genres de choses qui m'inquiètent un petit peu. C'est quand même dommage que Chromium soit autant en position dominante, parce que Chrome et Google ont une force de frappe énorme en termes de marketing. Il y a une époque où t'installais CCleaner, ça te proposait d'installer automatiquement Chrome et de le mettre par défaut. Il y a plein de logiciels comme ça qui, je pense que Google a aligné beaucoup d'argent, hein, tout simplement, et qui te permettaient d'installer Chrome très facilement et automatiquement. Et il s'avère aussi, faut pas le nier, que Chrome est un super navigateur web. Edge est très bien aussi. en termes d'interface, en termes de fluidité, et si on met de côté la consommation de RAM, ce sont de super navigateurs web. Et Firefox et la Mozilla Foundation ont pris du retard sur la rapidité d'exécution de leur navigateur. Maintenant, ça va mieux aujourd'hui. Hein, le Firefox, je trouve qu'il est vraiment au niveau. Mais on ne peut pas négliger le fait que Chrome soit un super navigateur et que les produits Google marchent mieux sur Chrome. Et beaucoup de gens utilisent les produits Google, les services plutôt. Par exemple, YouTube marche mieux sur Google Chrome. Il est bien plus rapide sur Google Chrome. Google a déjà fait ça avec la première spécification des Web Components qui a été faite complètement à l'arrache. Ils ont imposé leur spec au W3C qui a dû se débrouiller avec ça. Hein, il me semblait bien que j'avais déjà vu des news là-dessus. Merci à toi Léo Boyer, mais je parle là actuellement, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je suis toujours très frileux à dire il me semble que... Enfin voilà, tu vois, j'essaye de toujours faire un petit peu attention. Lorsqu'un site ne s'ouvre pas avec Safari, j'ouvre avec Chrome. Ouais. Mais bah pareil, hein, il me semble que Safari, c'est un autre moteur aussi. Mais Safari, je crois que c'est encore un dérivé de WebKit, qui est un ancien moteur, qui était d'ailleurs le moteur justement... Ah, il était utilisé pour quoi, WebKit? Après, on va passer à la prochaine news, mais... Attendez, on va regarder Safari, mais je crois que Safari est encore sur WebKit, qui est un troisième moteur de rendu. Et Wikipédia, Safari navigateur web... Ouais, HTML WebKit, tout à fait... C'est tout à fait ça. Et Android KitKat, vous vous rappelez, c'est la version 4.4 d'Android. Pareil, à la base, ils avaient WebKit. Et après, ça a été remplacé par Chrome, vu que Google a une certaine emprise sur Android. D'accord. Il était aussi utilisé blablabla. Et WebKit était utilisé par Google Chrome jusqu'en 2013 et par Opera jusqu'en 2015. Voilà, mais WebKit va sûrement disparaître petit à petit. Hein. Ça serait pas étonnant. Moi, je suis prêt à parier, je suis prêt à mettre ma main coupée que Safari, dans moins de 5 ans, utilise Chromium. Si j'utilisais Gecko, je serais extrêmement étonné et très content, mais j'y crois pas beaucoup. Et je pense que Safari va passer sur Chromium, parce que pour Apple, c'est des coûts de maintenance qui sont pas forcément pertinents, quoi. Perso, tu m'as convaincu, j'utilise Firefox avec StartPage. Ben, c'est cool, Robin. Je suis content de t'avoir convaincu là-dessus. Après, tu vois, Robin, il faut pas. Voilà, moi, ça m'arrive encore de temps en temps d'ouvrir un Google, une recherche Google, parce que pour certains résultats, je trouve que ça marche mieux. Notamment pour des résultats de dev, je trouve que ça marche mieux. Mais le but, c'est que, par exemple, si je cherche un truc sur, je sais pas, un truc de santé, j'ai vraiment pas envie de le mettre sur Google, quoi. C'est voilà. Mais je le répéterai encore et toujours, utilisez ce que vous voulez. Soyez juste au courant des choses, soyez des gens éclairés, mais utilisez ce que vous voulez, hein. Je force personne, et si vous trouvez que Edge est très bien, et si vous êtes ok que Microsoft récolte 2-3 trucs sur vous, enfin, en gros, les URL et ce genre de choses, et vos habitudes de navigation, chacun fait comme il veut. On va avancer, on va parler de Quant, on va continuer un petit peu justement sur tout le milieu du web. La saga inachevée de Quant, le moteur de recherche français qui s'apprête à fermer ses locaux à Ajaccio. Vous savez que Quant, ils ont été un peu dans la tourmente l'année dernière parce que Éric Léandry, le PDG originel de la société, est parti, a quitté la direction du groupe en janvier 2020. Il y a eu beaucoup de drama autour de Quant. Il y a surtout Next Impact qui a sorti un article assez piquant sur la façon dont Éric Léandry dirigeait Quant, hein, que... Là, à prendre avec vraiment des pincettes, parce que c'était l'article de Next Impact, mais apparemment que Éric Léandry était un patron, comment dire, très sévère, hein, on va utiliser ce mot-là. Je vous invite vraiment à lire l'article de Next Impact qui était assez intéressant, mais à prendre évidemment avec du recul, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri, même Next Impact qui est un super site de news, on n'est jamais à l'abri de biais. Hein. Il se peut qu'il y ait un des journalistes de Next Impact qui n'aime pas du tout Éric Léandry, enfin voilà. Toujours avoir du recul sur ces choses-là. Donc, il y a un nouveau PDG qui s'appelle Jean-Claude Ghizzoni. Ou Ghizzoni, je ne sais pas comment on le prononce. Je vais dire à la française, c'est Ghizzoni. Il est arrivé justement en début d'année 2020 et il a modifié beaucoup de choses dans la boîte. Moi, je trouve à titre personnel que c'est très bien ce qu'il a fait. Donc, notamment, il va se séparer de 25 personne. Les licenciements, c'est jamais très rigolo, donc bon, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Mais par rapport à la stratégie du groupe, je trouve que c'est pas trop trop mal ce qui se passe. En fait, les 25 licenciements du groupe de Quant vont être des licenciements à Ajaccio, le siège de Quant Music. Quant Music qui avait pour ambition de devenir le moteur de recherche de la musique. Pourquoi je trouve que c'est une bonne chose, en mettant de côté bien sûr l'humain, parce que je suis assez convaincu que Quant s'est complètement éparpillé, notamment le fait qu'il y ait un Quant Music, je trouve que ça n'a aucun sens. La boîte compte 100 employés, hein, d'ailleurs pour l'information. Quant, c'est 100 employés avec 25 séparations, enfin avec 25 licenciements, ils vont repasser donc à 75. Apparemment, ils voudraient embaucher 16 personnes à Nice, hein, donc ça va compenser aussi un petit peu le truc. Mais ce que fait le patron, et je trouve que c'est très bien, c'est qu'il recentre l'activité sur le cœur de métier qui est la recherche. Et Quant reste encore aujourd'hui à la bourre sur la recherche. Hein, Quant utilise une partie des résultats de Bing. Ils ont aussi évidemment leur propre indexation, mais voilà, c'est pas encore parfait. Et le fait qu'ils se focalisent sur la barre de recherche, enfin sur la barre de recherche, sur le moteur de recherche et sur leur truc principal, ben je trouve que c'est extrêmement bien. Voilà, autre signe qui a été envoyé que je trouve intéressant, c'est que pour réduire les dépenses, Quant va se séparer de quelques employés à Paris et surtout abandonner ses locaux parisiens. Locaux parisiens qui apparemment étaient très luxueux dans le 16e arrondissement. Le patron a décidé, enfin le PDG et d'autres personnes dans les prises de décision, ont décidé de se séparer de ces locaux-là. Et je trouve que c'est plutôt un signe assez positif, en mode, bah voilà, on fait l'effort de recentrer, on fait l'effort de faire des économies et d'injecter l'argent là où il y a besoin de l'injecter. Voilà, moi, Quant, j'ai d'autres problèmes avec Quant personnellement. C'est qu'il y a des messages que Quant a envoyés qui m'inquiètent un petit peu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien Quant, j'aime bien l'initiative, mais j'ai du mal à la recommander. C'est que Quant s'est associé avec Microsoft pour leur base pour leur serveur, pour leur data center, et se sont associés à Huawei, pour je sais plus quelle raison d'ailleurs. Mais si vous voulez, Huawei et Microsoft sont pas forcément des entreprises qui sont les plus connues pour un respect parfait de la vie privée des utilisateurs. Donc, à partir du moment où on est une entreprise comme Quant, on se dit défenseur de la vie privée, mais que derrière, on fait des effets d'annonce avec des entreprises qui ne le sont pas forcément. Voilà, autant avec Microsoft, je peux éventuellement l'accepter parce que ce que propose Microsoft, c'est des serveurs et tout ça, et Microsoft va pas aller espionner dans les serveurs, a priori. Donc Microsoft, à la limite, je peux comprendre la chose. Mais Huawei, je suis un petit peu... genre, pourquoi ? D'ailleurs, j'aimerais bien retrouver pourquoi Quant et Huawei, c'était... attendez, j'ai le micro devant le clavier, c'est pas forcément évident. C'est Huawei qui choisit Quant comme moteur de recherche, mais si vous voulez, je suis très 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 mitigé, quoi. Alors pourquoi le constructeur chinois aurait fait ça, c'est qu'ils ne peuvent plus faire appel aux entreprises américaines, mais je sais pas, je suis assez mitigé. Je prends des pincettes avec Quant. Et je vous recommande aujourd'hui, si vous voulez faire un peu attention à votre vie privée, je vous recommande plutôt Startpage, qui en plus est c'est Google, mais anonymisé. Sans juger, c'est vrai que chaque fois que j'ai vu les gens de chez Quant, je trouvais qu'ils dépensaient beaucoup d'argent pour leur taille. Bon, après, c'est habituel dans les startups. Oui, et puis il y a le côté soutenu par l'État. Je pense qu'il y avait vraiment le besoin de, au niveau de la communication, de montrer qu'ils avaient énormément de projets. Mais c'est vrai que, attention à à l'image renvoyée. C'est-à-dire que Quant reste une boîte avec pas énormément d'employés, ça reste une PME. Moi, le mot start-up me sort un peu par les trous de nez parce qu'on l'utilise un peu pour tout et n'importe quoi, et c'est le mot cool pour dire entreprise. Mais Quant reste une PME et une PME avec moins de 100 employés qui dépensaient des centaines de milliers d'euros dans certains projets. Non, quoi. J'aime bien Ecosia, même si pour la vie privée, je suis sûr de rien. Je crois que c'est à peu près OK, Ecosia. Huawei, c'est en train de devenir la Yahoo Touch. S'il te signe, t'es mort. C'est un petit peu ça, c'est pas faux. C'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là. Après, Huawei, je pense que voilà, il y a un aspect financier qui a pu être intéressant pour Quant. Mais il n'empêche que l'image, c'est extrêmement important. Et au moment du partenariat avec Microsoft, il y a quand même plein de gens de chez OVH qui ont dit « Eh les cocos, vous auriez pu venir chez OVH, même si on peut critiquer beaucoup de choses chez OVH, globalement, c'est vrai qu'ils auraient pu faire l'effort, je pense, de trouver un moyen de travailler ensemble, parce que c'est quand même ultra cool comme effet d'annonce. Peut-être qu'ils auraient perdu un peu d'argent parce que peut-être que la solution d'OVH est moins aboutie, mais au niveau de la communication... Regardez la différence, quoi. Quand qui dit on s'associe avec OVH, on reste en Europe pour protéger les données, et quand qui dit on s'associe avec Microsoft, il y a quand même deux grosses différences dans la communication. Moi, j'aurais beaucoup plus utilisé Quant s'ils avaient dit on s'associe avec OVH. Faut pas oublier en plus que Quant, même si j'ai pas trop suivi leur com actuellement, mais ça reste un navigateur qui va être utilisé par des geeks comme vous et moi. Et par des personnes qui sont un peu soucieuses de leur vie privée. Donc la com, faut qu'ils la fassent sur ces gens-là, je pense. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais vous avez compris un petit peu mon point de vue. De toute manière, si nous souhaitons faire attention à la vie privée, évitez les entreprises chinoises. Oui, mais en fait, si tu veux, même tu pourrais dire la même chose pour les entreprises américaines, Mathès. Hein, tu vois très bien ce que Snowden a révélé avec Prism. C'est la même chose des deux côtés. Donc le plus important en fait pour protéger sa vie privée, c'est de mettre le moins de choses en ligne. Point. Et quand tu mets des choses en ligne, essayez de le faire avec des services qui a priori sont hébergés en Europe et évite de vendre de la pub et ce genre de choses, quoi. En gros, à partir du moment où tes données ont un intérêt financier, tu peux commencer un peu à t'inquiéter. Voilà. Bref. J'ai déjà parlé hein, de plein d'outils, plein de façons de se sortir de ces outils-là. Il y a un site qui s'appelle privacytools.io qui donne beaucoup, beaucoup d'alternatives, notamment au niveau des emails, etc. Mais, encore une fois, c'est triste à dire, mais rien ne battra une inscription sur Gmail. Gmail, ça prend littéralement 30 secondes de créer une adresse Google et c'est gratuit. Donc rien ne battra ça, quoi. Bref, on va parler d'Instagram, on va parler un petit peu de réseaux sociaux, une enquête de Mediapart, que j'ai lu un petit peu les statistiques de l'enquête, d'ailleurs je vous mets le... Merde, j'ai fermé l'article, je suis trop débile. Ah, enfin, j'ai pas l'article, mais j'ai fermé le... Attendez, j'ai fermé tchic, la page avec les statistiques, sauf que c'était très important... Hop, où est-ce qu'elle est, la petite enquête? Oui, elle est là, c'est bon, je l'ai retrouvée. Ok, je vous envoie le lien du récap de l'enquête avec toutes les statistiques et tout, c'est quand même très intéressant. Hop, voilà, je vous envoie le lien. Bref, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une enquête de Mediapart, donc comme je vous l'ai dit, qui révèle que le réseau social favoriserait les photos dénudées. En gros, une enquête démontre qu'une... Oui, bon, ça, en fait, c'est exactement la même chose, c'est le résumé du titre de l'article. La plateforme, en gros, sélectionnerait le contenu de votre fil, ça, on le savait, hein, grâce à un algorithme dont les critères ne sont pas communiqués par l'entreprise. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui militent pour que les algorithmes, justement, de ces sites-là, comme Facebook, Instagram, Twitter, etc., soient publiés et soient ouverts et disponibles. Ce que je trouve être une chose plutôt intéressante. Je pense que ça ne sera pas fait. Mais c'est pas non plus impossible qu'on voit dans un futur plus ou moins proche, peut-être dans les 10 années à venir, que les algorithmes comme ça doivent être à minima audités. Bref. Et donc ce qui se passe, c'est que une photo d'une femme en maillot a 1,6 fois plus de chances d'être montrée qu'une photo habillée. Instagram autorise le male gaze, alors je sais pas comment traduire ça exactement, mais j'imagine c'est autorise le fait que les hommes regardent beaucoup plus souvent des photos de femmes dénudées, quoi. Donc ouais. Une femme dénudée, en maillot de bain, en très légère tenue, va être montrée 1,6 fois plus qu'une photo présentant une femme habillée, un taux qui tombe à 1,3 pour les hommes. Donc on voit encore aujourd'hui une différence entre le traitement de l'habillement chez les femmes et chez les hommes, hein. Il y a encore une différence là-dessus. Et mieux exposées, ces photos récoltent donc logiquement plus de likes et d'interactions. Mais on voit que le problème est chez les hommes et chez les femmes aussi. hein, il est chez les deux sexes, une, entre guillemets, prime à la nudité qui inciterait les usagers du réseau social à se dévoiler davantage. Alors c'est un truc qui est, certains diront, vieux comme le monde, hein, le fait que quand tu te mets en... Enfin, si tu as un physique avantageux et que tu te mets en avant comme ça, eh bien, effectivement, d'un point de vue business, c'est intéressant, mais... Ça fait quand même poser des questions et effectivement, on va parler un petit peu de morale. Je sais qu'à chaque fois, il y a des commentaires qui sont en mode « Mais Nowtech devient... le mug devient une émission où on parle de morale. » Mais il n'empêche que la société et les règles qui nous entourent sont basées aussi en partie sur de la morale. Et la morale évolue au fur et à mesure des générations. Donc effectivement, ça pose quand même la question de la nudité, le fait qu'il y ait encore une différence entre la femme et l'homme, ça pose une question aussi de sexisme, le fait qu'on mette beaucoup plus en avant les photos de femmes dénudées, ça soulève beaucoup beaucoup de questions. Je ne vais pas tergiverser là aujourd'hui, maintenant dans cet article, mais il y aurait énormément de choses à dire. Au niveau de, juste, je vais quand même prendre un petit peu les chiffres, vous donner un petit peu les chiffres de l'étude. Alors le nombre d'utilisateurs Instagram pour baser l'étude n'est pas énorme, ça a été fait avec 46 utilisateurs d'Instagram. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais je tiens à tempérer, et les journalistes de Mediapart ont expliqué que l'étude atteignait une certaine... je sais plus le terme qu'ils ont utilisé, mais en gros, d'un point de vue statistique, c'est assez correct, parce qu'effectivement, il n'y a que 46 utilisateurs d'Instagram, mais par contre, les informations étaient collectées sur 3351 images, ce qui donne un échantillon d'images pour faire les statistiques quand même pas trop mal. Voilà. Et il s'avère donc, comme je vous l'ai dit, 1,6 les photos de femmes habillées légèrement sont montrées 1,6 fois plus, et les photos d'hommes habillés légèrement sont montrées 1,3 fois plus que des photos qui ne montrent pas ce genre de... Enfin, qui ne montrent pas des personnes... En fait, le mot dénudé me vient à l'esprit à chaque fois, c'est pour ça que je bug, je suis désolé. Mais pour moi, dénudé, c'est pas le terme correct. C'est utilisé dans l'article, mais c'est pas le terme correct. Voilà. Je ne comprends pas bien le point de vue. Pourquoi mettons l'algo en cause et pas l'utilisateur? Si je suis un mec, je me doute que les photos gastro marcheront mieux chez les femmes que la bagnole. Ben, si tu veux, le problème, Aura France, c'est qu'à partir du moment où tu as un algorithme, si tu veux, moi, ce qui me gêne, c'est que ces photos devraient être... L'algorithme, va te montrer plus... C'est pas un choix des utilisateurs. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un choix des utilisateurs. C'est l'algorithme qui, de lui-même, va te montrer plus de photos d'hommes et de femmes vêtues légèrement, sans que tu l'aies choisi, au lieu de montrer ça de façon équitable, que ça soit réparti un petit peu plus équitablement. Donc, voilà, ça, en gros, ce problème, on peut le poser aussi différemment. Imaginez que, si l'algorithme montrait des contenus plus problématiques que ça, vraiment plus problématiques que ça, on sortirait les fourches et on dirait « oui, mais je m'explique mal ». Mais en gros, ce qui me gêne, c'est que tu n'aies pas le choix sur ça et que ça montre, voilà, non, j'ai pas j'ai du mal à l'exprimer, mais ça me gêne qu'on choisisse pour moi, en gros, voilà. Il y a un peu la même chose avec Facebook, avec le fait que ça montrait tes opinions politiques dans un sens. Si tu veux, à partir du moment où les algorithmes choisissent, ça va aussi façonner la société. Le fait que les algorithmes montrent certains contenus, favorisent certains contenus pour l'argent, évidemment. Ça nous met dans des bulles, inévitablement. Et donc, ça nous... Vous le voyez, on parle quand même souvent beaucoup de dépression liée aux réseaux sociaux, du fait qu'on montre des corps parfaits en permanence. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'ados, hommes et femmes d'ailleurs, hein, d'adolescents, qui ont l'impression que leur corps, il n'est pas parfait, il n'est pas bien du tout. Est-ce que justement, le fait que l'algo montre plus de corps dénudés, et souvent des corps parfaits, hein, d'hommes et de femmes, c'est quand même un vecteur à se dire « Putain, mon corps, il n'est pas parfait. Moi, je suis une crevette. » Voilà, je suis quelqu'un de vraiment mince. J'ai quand même beaucoup complexé là-dessus. Et il s'avère que quand même, quand je regarde Instagram, bon, je regarde très peu Instagram, mais l'époque où je regardais pas mal Instagram, voir soit des potes à moi ou soit des gens dans les suggestions qui étaient vraiment bien plus musclés, tout ça, putain, ça te fait complexer quand même. Bref, tout ça pour poser la question qu'effectivement, ça peut être problématique, je pense, que l'algorithme montre plus ce genre de choses. Voilà. Leur algo exaspère les biais de notre société là où il devrait les atténuer. Bah après, ils font ça pour le business. Mais si tu veux, c'est pareil, c'est une question au niveau de la société. Est-ce que c'est pas question complètement ouverte, mais est-ce que le fait que les corps féminins, masculins, plus légèrement vêtus, fassent plus cliquer, est-ce que c'est pas aussi, comment dire, une problématique de société? Je pose la question, j'ai pas la réponse, mais qu'est-ce que tu dis, Jérôme? L'algorithme augmente le problème, les hommes likent plus facilement une femme en maillot, donc l'algo en propose plus. Oui, bien sûr, mais si tu veux, je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, tu démarres un compte Instagram complètement vierge, tu auras plus de suggestions de corps dénudés, parce que l'algorithme sait que ça marche mieux. Voilà. La turbo crevette, exactement, Mathès. On n'a quand même aucune preuve que l'algorithme détecte la nudité et le genre pour faire monter. Alors, c'est faux, Vincent. En fait, même l'étude utilise l'algorithme de Google, enfin, en gros, de l'IA de chez Google. Je vous invite vraiment à lire le résumé, hein, le lien que je vous ai envoyé tout à l'heure. Ça utilise un algorithme de Google qui détecte très très bien la nudité, enfin en gros la nudité, le mot est mal choisi, mais qui détecte extrêmement bien ce qu'il y a sur la photo. D'ailleurs, faites l'expérience, si vous avez encore un compte Facebook, ouvrez Facebook, ouvrez une photo de n'importe quoi, et regardez, il faut ouvrir la console développeur et tout ça, et ou non, il n'y a peut-être même pas besoin, mais je crois que si, je ne sais plus. Mais en gros, vous pouvez regarder les tags associés à la photo, et vous voyez qu'il y a une description de la photo. Il y a une description de la photo. En fait, les algos aujourd'hui sont ultra, ultra évolués, et ça fait plusieurs années déjà, hein, pour détecter ce qu'il y a sur une photo. Voilà. Tic, tic, tic. C'est la société qui pervertit l'algo. Aura France, tu dis, mais est-ce que c'est pas l'algo qui continue de la pervertir? Enfin, après, pervertir, tu vois, je trouve le mot est fort. Des corps dénudés, c'est pas forcément être pervers. Tu vois, c'est là où il faut quand même garder raison. Moi, j'aime bien voir des femmes nues ou peu vêtues. Voilà, on va pas se mentir. Et les femmes aiment bien voir des hommes nus ou peu vêtus. Hein. Quand c'est voulu, évidemment. Pas des dick pics envoyés dans des messages privés Instagram. Hein, voilà. Mais quand c'est recherché soi-même, c'est pas un problème. Je veux dire, voilà. Enfin, c'est pas pervers d'aimer des jolis corps. Faut pas non plus être complètement voilà, être partir dans le truc où c'est horrible de regarder des corps dénudés. On est bien d'accord. Mais le problème est de laisser un algo amplifier une préférence plutôt qu'un... Voilà, moi je pense que c'est plutôt ça, effectivement, Hypomonie, comme tu le dis. C'est le début de la manipulation du libre-arbitre par le matraquage démultiplié de l'algorithme. En gros, si dans votre vie, vous êtes... Et donc, je reprends l'exemple des ados que j'ai pris tout à l'heure. Mais si vous êtes de plus en plus, enfin, si vous êtes régulièrement matraqué avec des corps parfaits tout le temps en permanence, ça fausse la vision de la sexualité, de la vraie vie. Ça fausse aussi le simple fait de dire qu'est-ce qu'est un corps normal. Parce que plus vous voyez des corps parfaits sur Instagram, plus le petit bourrelet que vous avez quand vous vous asseyez, que vous êtes pas forcément très très droit, vous allez complexer dessus, vous allez dire putain mais je suis pas parfait, etc. Enfin voilà. Moi j'aime bien les femmes nues aussi. Eh ben écoute, Émilie Marie, tant mieux pour toi. C'est très bien. Samuel a confirmé, je confirme pour Facebook, il y a bien le tag, je viens de regarder. Faites l'expérience sur toutes les photos sur Facebook, vous verrez qu'il y a un tag qui explique ce qu'il y a dans la photo. Donc, Instagram, c'est Facebook, et ils sont totalement capables de faire ça. Alors tu vois, Mathès, tu dis ça peut aussi motiver les gens à se bouger les fesses et aller à la salle de sport. Ouais, mais il y a une différence entre effectivement avoir un problème de santé et il faut que tu te prennes en charge faut pas que ça devienne malsain, tu vois. Enfin, ça peut motiver des gens, effectivement, à améliorer leur physique, leurs conditions et tout ça. Mais bref, on va avancer les gens parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps là-dessus et il y a encore pas mal de news. Mais c'est très intéressant, j'aime beaucoup parler de ça avec vous. Voilà, je trouve ça toujours très intéressant. Ils sont capables, mais tu crois pas qu'ils mettent juste en avant les photos les plus likées? Oui, mais c'est le serpent qui se mord. Oui, certainement, Vaïa. Mais de toute façon, lisez un petit peu l'étude que je vous ai envoyée tout à l'heure. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que si c'est les photos les plus likées, alors elles sont les plus mises en avant. Alors elles sont les plus likées. Alors elles sont les plus mises en avant. Tu vois ? Donc c'est aussi de la responsabilité de ces entreprises-là à équilibrer un petit peu les photos suggérées. Voilà. Et à pas tomber dans les trucs faciles. Je pense. D'avoir un meilleur équilibre. Je veux dire, si on montrait moins de photos comme ça, je dis pas d'arrêter d'en montrer. Moi, j'aime bien, hein, voilà. Mais montrer à côté un peu plus peut-être de photos de rue, Moi, j'adore la photo truc. Ou montrer un petit peu plus de jolis portraits, etc., etc. Ça permettrait d'équilibrer. Et la photo, c'est pas juste des femmes et des hommes peu vêtus. donc voilà. Et bref, on va avancer. On va continuer de parler de Facebook. Mark Zuckerberg qui annonce que Facebook, alors gros changement, grosse news. Mark Zuckerberg annonce que Facebook va maintenant permettre aux utilisateurs d'éteindre, enfin de couper les publicités politiques. Alors c'est un truc qu'on n'a pas en France. Nous en France c'est interdit. Mais aux États-Unis, vous savez que tout le scandale Cambridge Analytica a tourné autour de ça, hein, du fait qu'il y avait des publicités, notamment par exemple Hillary is a cooker, donc Hillary est une escroc. Enfin toutes ces pubs-là, il y en avait énormément sur Facebook. Ce qui a largement contribué à la victoire de Donald Trump, avec malheureusement beaucoup de campagnes comme ça, une certaine partie des campagnes qui étaient de la désinformation, bref. Donc Facebook va maintenant permettre aux utilisateurs de couper les publicités politiques. J'ai pas réussi à savoir sur l'article, c'était pas indiqué, si c'était du opt-in ou du opt-out. En gros, ce que je veux dire, c'est est-ce que par défaut, elles sont montrées les pubs et on les coupe soi-même, ou est-ce que par défaut, elles sont coupées ? À mon avis, il faut les couper volontairement, ce qui réduit drastiquement l'efficacité, mais je pense que Facebook fait ça pour essayer d'éteindre un peu l'incendie. En gros, pour ceux qui ont déjà leurs avis politiques et qui veulent que les élections soient terminées, on vous a écouté et on propose la possibilité de couper les publicités politiques, a écrit Zuckerberg. Facebook va rendre ça disponible dans les prochaines semaines. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est la news. Cooker avec un R. Salut Olivier. C'est chouette comme possibilité déjà. On est d'accord, Émilie Marie. Je trouve aussi que c'est bien qu'il y ait l'option. C'est mieux que rien. Salut Nicolas, alors les questions, il faut les garder pour la fin de l'émission, mais je vais quand même te répondre. Mon Fuji, c'est un X100V. Voilà. Mais gardez vos questions hors sujet de l'article en cours pour la fin de l'émission, s'il vous plaît. Sinon, après, on va passer tout notre temps à répondre aux questions en plein dans l'émission, ça va être compliqué. T'as dit quoi, Jérôme ? C'est le même problème sur YouTube. Il y a de plus en plus de merde facile, car ça fait plus de vues, car les gens voient la facilité, mais c'est renforcé par la mise en avant. Ah, je sais pas ton commentaire. Un algo renforce ça, tout à fait. Alors que je pense que, encore une fois, c'est de la responsabilité de ces entreprises-là d'équilibrer leurs suggestions. Effectivement, il faut pas. Voilà, leur but c'est de faire de l'argent et je suis pas naïf, mais il faut équilibrer. On va passer à autre chose, sinon je pourrais passer des heures à en parler parce que je trouve ça trop cool. Je vais vous présenter une fonctionnalité que j'ai découvert récemment, je crois que c'est très récent, sur Lightroom d'Adobe, quoi. Parce que oui, en anglais, on dit Adobe, et à chaque fois, ça me perturbe, mais bref, c'est comme ça. Donc, une fonctionnalité que je trouve archi cool, je vais vous montrer ça tout de suite, ça s'appelle Adobe Discover, et c'est une fonctionnalité qui permet tout simplement de voir le processus de traitement des photos par les photographes. Donc, en gros, vous avez ici des catégories de photos. Par exemple, on peut très bien regarder des photos... Il y a des photos de rue, donc typiquement, moi, ça m'intéresse énormément. Donc, les photos de rue, c'est des photos de plein d'utilisateurs de Lightroom. J'imagine que ce sont des utilisateurs qui ont accepté que ces photos soient mises sur ça. Et en gros, vous pouvez, en passant votre curseur, voir le avant-après. Par exemple, et voir un petit peu le processus de traitement de l'image. Donc, si par exemple, je clique sur cette photo d'une photographe qui s'appelle Lisa Carney, donc je clique dessus, et en fait, on voit étape par étape, ici, sur la droite, on voit étape par étape le traitement pour atteindre la photo finale. Voilà, et je trouve que c'est archi cool, et on peut cliquer pour justement le faire, hein, comme ça. Donc on voit que la teinte a été un petit peu changée, baisser la vibrance, donc pour baisser les couleurs, en gros, la saturation, augmenter un petit peu la texture et la clarté. La clarté, c'est un paramètre que j'utilise beaucoup, moi, personnellement, parce que ça donne du caractère aux photos. Attention à pas trop l'utiliser, j'avais tendance à trop l'utiliser à une époque, mais maintenant je fais plus attention. Changer un petit peu la géométrie pour rendre ça plus droit. D'ailleurs, la géométrie automatique sur Lightroom, elle marche quand même pas trop mal. Les corrections de l'objectif et un petit dégradé pour baisser la couleur du ciel, rendre ça plus dramatique. Voilà, donc je trouve ça vraiment très chouette. Ça, j'imagine que c'est peut-être une photo prise à Hong Kong. Peut-être que... Ouais, je pense que c'est pris à Hong Kong. J'essaie de regarder un petit peu le visage des gens. Mais ils sont un petit peu asiatiques. Donc, à mon avis, ça doit être à Hong Kong vu les manifestations. À prendre avec des pincettes, hein, ce que je dis, évidemment. Mais vous voyez, il y a tous les traitements petit à petit. de la désaturation partielle, c'est le mal. Mais non, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Tu es sûr qu'en anglais, on prononce A pour Adobe? Adobe. Ah oui, Adobe, peut-être, je sais pas. Bref. Mieux que ça, si l'auteur ou autrice le désire, il ou elle peut partager toute la retouche sur la forme d'un preset. Ok. Ah, c'est intéressant ça, je ne savais pas. Voilà, vous voyez que la photo originale, on est passé de ça, qui est une photo, qui est une jolie photo, mais qui manque de caractère évidemment, à ça, qui est une photo qui est quand même plus intéressante. Le format vertical est mieux, je trouve aussi, plutôt que le format large, parce que ça concentre la vision sur ce qu'il y a sur la photo, hein, sur la foule. Les lignes de fuite sont intéressantes. Enfin, cette photo est très réussie, elle est très cool. Bref, la clarté, c'est comme le rimmel, ça renforce le regard, mais il ne faut pas abuser. Exactement. La clarté, c'est un peu comme le maquillage. Si tu en mets trop, après, ça devient pas beau. Après, pain au chocolat, chocolatine, bienvenue au team Adobe, Adobe. Il y a aussi le gif ou gif, hein, Alexien, si tu veux partir loin. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça archi cool. On va parler, je vais enlever, hop, voilà. On va parler, et on va accélérer un petit peu, on va parler de Chrome OS. Chrome OS qui est le système d'exploitation de Google, qui est sur certains ordinateurs, hein, c'est basé sur du Linux. Et Chrome OS, c'est un système d'exploitation qui est assez léger, hein, qui globalement est basé sur des web apps. Hein, donc, en gros, le système, c'est un Google Chrome qui permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est évidemment pas un système que je vous recommande, dans le sens où bah, c'est Google derrière, donc ce que vous faites sur l'ordi va être évidemment récolté. Mais si certains sont OK avec ça, encore une fois, il n'y a absolument aucun problème. Eh bien, Google et Parallels Desktop, qui est un nom d'entreprise, enfin d'un produit qui est très pénible à prononcer. Donc Google et Parallels Desktop vont travailler ensemble et Parallels est un logiciel en fait qui est très bien sur macOS et qui permet de faire de la virtualisation. En gros, de lancer une machine virtuelle, hein, tout simplement. Et en gros, ils vont rendre potentiellement des applis Windows compatibles sur Chrome OS. Donc on pourra lancer des applis Windows sur Chrome OS, ce que je trouve être quelque chose d'assez intéressant, notamment pour des étudiants qui auraient des Chromebooks et qui ont besoin de temps en temps de certaines applications qui se lancent que sur Windows. Voilà, voilà, voilà. Et on va terminer avec Zoom. Zoom qui fait un petit 180, comme le mug que vous regardez actuellement, qui est l'épisode 180, c'est incroyable. J'ai attendu toute l'émission pour faire cette blague. Hein, donc voilà. Donc Zoom qui fait un petit 180 sur, vous savez, sur le chiffrement, on en a parlé. Zoom qui avait dit que les utilisateurs gratuits n'auraient pas de chiffrement, qui pourraient aller bien se faire. Eh bien, Zoom, en fait, à partir de juillet, va rendre le chiffrement disponible partout, même pour les utilisateurs gratuits. Et ce qui est encore plus joli, c'est qu'ils vont le faire sur GitHub. Donc en gros, ils vont rendre complètement visible tout le chiffrement qu'ils font. Voilà. Donc je trouve que c'est très bien. Zoom qui se rattrape un petit peu. Et c'est très bien. Voilà, parce que le chiffrement, ça devrait être un standard en fait. Ça devrait pas être... ça devrait pas être le truc, la petite fonctionnalité cool. Ça devrait être le standard, tout simplement. Donc voilà. Et écoutez, on va passer à la tartine jeu de société. Mais avant, on va parler évidemment du sponsor de l'émission. Vous savez que toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter @shadow-france. Vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le MagnaoTech pour jouer à tel jeu ou pour utiliser un logiciel. » Et demain, Jérôme annoncera le gagnant de la semaine. Je vous propose tout de suite que nous passions à la tartine et on va parler de jeux de société. Et vous verrez que c'est très cool. Et donc, on va parler de jeux de société, une petite tartine détendue, une petite tartine beurre-miel, parce que c'est très bon le beurre et le miel, c'est très gras, très sucré, mais c'est pas grave. Et on va parler, comme dans cette tartine, de trois jeux, peut-être quatre, si on a le temps, je sais pas, je verrai. On avait déjà parlé de jeux de société, on avait parlé de King Domino, de Saboteur, de Celestia et de Not Alone. Pourquoi j'avais présenté ces jeux de société-là? Parce que c'était des jeux de société qui étaient jouables en ligne sur un site qui s'appelait Board Game Arena et on y a énormément joué avec mes potes pendant le confinement. Là, les jeux que je vais vous présenter ne sont pas dispo en ligne, sauf que comme on est post-confinement, et j'espère pas pré-nouveau confinement, j'ai quand même... Une petite inquiétude qu'on soit reconfiné dans quelques mois. Bref, tant pis, ne parlons pas de malheur, hein, on verra. Mais en tout cas, voilà, tant que vous pouvez revoir un petit peu des gens, manger avec des amis, faire des petites soirées, des choses comme ça, eh bien, moi, je vous propose trois nouveaux jeux que j'adore, auxquels j'ai énormément joué. Et on va en parler tout de suite. Donc, le premier jeu s'appelle Skull King. Skull King, en gros, c'est un jeu de plis. Un jeu de plis, c'est un jeu un petit peu comme, par exemple, vous savez, sur Windows, à une époque, il y avait la Dame de Pique. En gros, les jeux de plis, c'est des jeux où vous avez une manche. Chaque joueur va jouer une carte et la carte la plus forte va remporter le pli. Hein, va remporter, en gros, ouais, ce qui s'appelle un pli, en fait, la petite pile que les gens ont mis au milieu de la table avec la carte de chacun. Donc Skull King est un jeu de plis, mais c'est un jeu de plis qui est assez sympa parce qu'il a un thème autour des pirates qui est vraiment trop trop cool. Moi j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu des images du jeu. Hop, ah, attendez, je vous mets hop, le navigateur comme ça. Donc en gros, vous avez des pirates, hein, ici, qui sont les cartes les plus fortes du jeu. C'est un petit peu les jokers. Sauf le drapeau. Le drapeau permet de ne pas remporter un pli parce que dans ce jeu, il y a des intérêts à ne pas remporter un pli. Il y a une force au niveau des cartes. Hein. Voilà, il y a des cartes plus normales. C'est des cartes pirates, bleues, jaunes, rouges et noires. Donc chaque carte a évidemment une valeur. Et en fait, le principe du jeu, c'est que il va y avoir 10 manches. La première manche, chacun a une carte dans la main. Vous jouez votre carte. La personne et avant de et ouais, j'ai oublié le truc plus important. Avant de démarrer et de jouer ses cartes, chaque joueur va faire yo-ho-ho. Et en faisant yo-ho-ho, vous allez dire combien de plis vous pensez remporter dans la manche. Donc, par exemple, vous avez une carte en main et vous avez un pirate dans la main. Vous savez qu'a priori, vous allez remporter le pli. Vous allez faire yo-ho-ho. Donc, vous allez tendre un doigt. Et un doigt, ça veut dire je parie que sur cette manche, je vais remporter un pli. Chacun joue sa carte. Si vous remportez le pli, vous marquez des points. Si par contre, vous vous trompez et vous ne remportez pas le pli, vous perdez des points et vous perdez rapidement des points. Deuxième manche du jeu, là, chaque joueur va avoir deux cartes dans la main. OK? Donc vous regardez, vous vous dites, ah, tiens, j'ai deux pirates. Donc c'est pas mal, je pense que je vais remporter les deux plis. Vous faites, tout le monde fait en même temps, yo, ho, ho, et vous faites tendre deux doigts pour dire, ah, intéressant, enfin voilà, je pense que je vais être dans la possibilité de remporter deux plis. Vous jouez une première carte, chaque joueur va jouer une carte. Si vous avez gagné le pli, vous remportez un premier pli. Vous jouez votre deuxième carte, et tout le monde joue sa carte. Si vous perdez le pli, donc si une personne a un meilleur pirate que vous, par exemple, et bien là, vous n'avez pas respecté le contrat. Vous avez annoncé deux plis, sauf que vous en avez fait qu'un, donc vous perdez des points, etc. etc. Et il y a 10 manches, donc au fur et à mesure du jeu, vous avez une carte de plus en plus. Enfin, vous avez une carte supplémentaire à chaque tour. Et à la dernière manche, vous avez 10 cartes dans la main. Donc pour estimer le nombre de plis que vous allez faire, c'est compliqué. Et donc, il y a beaucoup de stratégies de quelle carte vous allez jouer, à quel moment, etc. Moi, c'est un jeu que je trouve très cool. Il n'est pas compliqué à comprendre. Là, évidemment, en expliquant, c'est toujours pas facile. C'est un jeu auquel vous pouvez jouer avec des enfants. Je trouve que ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce jeu, c'est l'ambiance. L'ambiance est archi cool, dans le sens où à chaque manche, vous allez faire yo, ho, ho, et vous allez faire les pirates, en gros. Donc, tu peux pas savoir qui vote quoi avant de choisir. Non, vous votez tous en même temps. Donc, ce qui est rigolo, c'est quand, par exemple, il y a des gens qui votent beaucoup, enfin pour beaucoup de plis. Parce que, imaginons, vous êtes 5 joueurs et il y a 2 joueurs qui ont des très bonnes cartes, ben vous allez être 2 joueurs à estimer avoir beaucoup, beaucoup de plis. C'est à quel moment qu'on dit cul de chouette? Ben tu peux remplacer, tu peux faire cul de chouette, si tu préfères. C'est voilà, c'est chacun fait comme il veut. Chance Louis, exactement. Non mais je vous assure que le jeu n'est vraiment, vraiment pas compliqué. Et il est très fun, il n'est pas très cher. Et moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est trop con parce que j'avais un pote qui m'avait parlé d'un site où on peut acheter des jeux d'occasion. Je l'ai plus en tête, mais tapez sur Startpage, Google, ce que vous voulez. Jeu de société, attendez, jeu de société occasion. Ça peut être cool pour éviter d'acheter du neuf. C'est Ocaseo. Ouais, c'est ça. Il y a un site qui s'appelle Ocaseo. C'est vraiment le bon coin des jeux de société. Et je suis assez sûr que si on tape Skull King, il y a peut-être moyen d'en trouver un. Ouais, il y a des Skull King qui sont dispo. Enfin, il y en a un qui est dispo. Une édition, une extension. Ah, il y a même une extension. Ok. Bref, il y a 4 annonces pour racheter des Skull King. Voilà, hein, par exemple, les Skull King, il y en a dispo à Lyon, et dans d'autres villes que je connais pas. Il y a Fontenay-sous-Bois, enfin voilà. Donc ça peut être cool d'acheter des jeux d'occasion, hein, c'est toujours très intéressant et surtout ça coûte moins cher. Donc voilà, donc le site c'est Ocaseo. Il n'y a pas du tout de pub, il n'y a pas du tout de partenariat ou quoi. Les jeux sont-ils désinfectés avant d'être mis en vente? Ah, je pense pas quand même, super chinoise. Encore un scandale culturel qui renforce les archétypes ancestraux sur les pirates. Exactement, hein. On va tweeter. Jérôme, je te propose qu'on tweete. On tweete, oui, not my pirate, hein, voilà. Ou dénonce ton pirate. Bref. Donc ça, c'est le premier jeu. Donc c'est un jeu de pli, ça, c'est assez rapide, une partie, c'est 15-20 minutes à peu près. Et ça met une grosse ambiance. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'ambiance que ça met dans les soirées. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas du tout jeux de société, je peux totalement l'entendre, mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup. Deuxième jeu, un jeu qui est un petit peu plus... qui est très joli, qui est un de mes jeux, je trouve, les plus jolis, les plus designés. Il est peut-être un poil plus compliqué que Skull King, c'est pas du tout le même style de jeu, ça s'appelle Mysterium. Ça fait partie de mes jeux préférés. De toute façon, les jeux que je vous montre, ça fait partie de mes jeux préférés. Et en fait, Mysterium, c'est un jeu. Je vais essayer de voir s'il y a des petites illustrations là. Parce que là, c'est des gens qui y jouent. Ouais, là, il y a une illustration. En fait, le principe de Mysterium, c'est que c'est un Cluedo amélioré. Vous connaissez le principe du Cluedo. Il faut trouver qui a tué, dans quelle pièce, avec quel objet. Eh bien, Mysterium, c'est exactement la même chose. Sauf que la différence, c'est que. En fait, la personne qui a été tuée est un joueur. C'est-à-dire que la personne qui a été tuée est un fantôme. C'est en gros une sorte de maître du jeu. Et le fantôme, son rôle à lui, ça va être de donner des indices. Le rôle du fantôme va être de donner des indices. Je vais voir s'il n'y a pas des vidéos. Mysterium, comment ça marche? Peut-être que là, il y aura des explications. On va faire attention de pas. Ah, on peut pas. Non. Ok, on peut pas mettre en pause ou quoi? C'est chiant. Ah, mais c'était une publicité. Ok. Bon, tant pis. Mais en gros, il y a un fantôme qui va donner des indices aux joueurs pour qu'ils essayent de deviner. J'aurais bien aimé vous montrer un peu le plateau de Mysterium. Ah, attendez. Plateau Mysterium. Pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Il me le faudra en grand, surtout, en fait, l'image. Hop. Ah, attendez. Hein. Ça charge. Ouais. Ah, là, elles sont pas mal. Elles sont assez grandes, les images. Super. Hop. Donc ça fait partie des personnages. Ça, c'est des lieux. Il y a évidemment un temps limité. Hein, vous pouvez pas. Ça, c'est les armes. Voilà, le plateau ressemble à ça. Donc sur la droite, en fait, vous allez avoir le joueur qui est un petit paravent. Hein, et il va pouvoir donner des indices parce que le fantôme, évidemment, sait qui l'a tué. Donc il va pouvoir donner ces cartes-là qui sont des indices. C'est un jeu qui est très abstrait, c'est-à-dire que vous allez par exemple si la personne qui est le crimier, qui est la personne qui est le meurtrier, c'est par exemple le cuisinier. Eh bien dans les cartes que vous avez ici, vous allez par exemple avoir une carte un peu abstraite où il y aura sur la carte un petit ustensile de cuisine. Donc vous allez donner cette carte au joueur qui doit deviner que le meurtrier c'est le cuisinier. Et il va essayer d'estimer ce que le fantôme, enfin l'indice qu'a donné le fantôme. Mais en fait, les indices sont assez abstraits pour pas être sûr à 100%. Est-ce que le tueur a une moustache? Grande question. Obscurio est un excellent mélange de Mysterium et de loup-garou. Ah, oh, ça m'intéresse ça, Sylvain Delisle, tu vois. Obscurio, je vais le mettre dans un petit coin. Voilà, donc Mysterium, c'est très cool. Pareil, vous avez Ocaseo pour essayer d'en trouver d'occasion. N'hésitez pas à acheter des jeux d'occasion. C'est bien pour votre argent, c'est bien pour la planète. Voilà. Et on va parler d'un dernier jeu que j'aime énormément. Par contre, je l'aime beaucoup, mais avec l'extension. C'est Galerapagos. Je trouve que sans l'extension, le jeu est un petit peu trop dur. Mais avec l'extension, ça le rend plus intéressant, plus dynamique. Donc, le Galerapagos, c'est le jeu coopératif, mais pas trop. Dans le sens où, en fait, c'est un jeu de coups fourrés. Le principe, en gros, c'est que vous avez un plateau de jeu que je vais essayer de vous ouvrir en un peu plus grand. Si on peut ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ah putain, on l'aura pas en beaucoup plus grand. Bref, vous avez un plateau de jeu, d'accord? Et vous avez des ressources, vous avez de la nourriture et de l'eau. C'est la petite goutte d'eau que vous voyez ici, et c'est la petite icône de poisson que vous voyez ici. Vous allez être X aventuriers. Là, par exemple, imaginons, on est 4 aventuriers. À chaque tour, vous allez consommer des ressources plus vous restez sur l'île. Le but du jeu, c'est évidemment de se barrer de l'île. Pour cela, vous avez des cartes radeaux, vous allez empiler pour construire au fur et à mesure un radeau. Le problème de ce jeu-là, c'est qu'en gros, à 95% du temps, vous pourrez pas vous partir de l'île, hein, c'est donc l'objectif, avec tout le monde. Parce que soit il n'y aura pas assez de place sur le radeau, parce que ça prend du temps de construire les places sur un radeau, soit parce que il n'y aura pas assez de nourriture, donc il y a un moment où il faudra qu'une personne soit tuée par le groupe d'aventuriers, soit parce qu'il n'y aura pas assez d'eau, donc même problème, il faut qu'une personne soit tuée, etc. Et voilà. Le fun du jeu, ce qui rend le jeu un petit peu intéressant, c'est que, enfin très intéressant, et moi j'aime beaucoup, c'est qu'il y a des cartes dans une épave. C'est-à-dire que au bord de l'île, vous la voyez ici, il y a une épave, et dans cette épave, il y a plein d'objets différents, et notamment, il y a des objets comme un revolver. Donc, si vous avez bien compris le truc, un revolver, si vous avez un revolver et une balle que vous trouvez dans l'épave, eh bien, vous pouvez tuer, par exemple, un des aventuriers présents avec vous. Bon, je vous rassure, c'est quand même pas facile d'avoir un pistolet. Les images ressemblent à ça. C'est cool, j'avais peur qu'on n'en voit pas. En gros, les cartes dans l'épave ressemblent à ça. Donc, vous avez soit des cartes complètement inutiles, genre le vieux slip. Cet objet ne sert à rien si ce n'est vous apporter éventuellement un peu de confort. Par contre, vous avez un revolver. Le revolver permet d'abattre un joueur si vous avez une cartouche aussi dans votre main. Vous avez d'autres items qui permettent d'avoir de la nourriture, par exemple le panier garni, hein, qui permet de nourrir et d'éviter de mourir, en fait, tout simplement. Je regarde s'il y a d'autres items. Il y a des cartes qui sont assez rigolotes, notamment le kit barbecue cannibale. En gros, si un joueur est mort pendant le tour, pendant votre tour et que vous jouez le kit barbecue cannibale, ça file de la nourriture au groupe. Voilà. Il y a aussi des cartes pour ressusciter, il y a aussi des cartes qui font chier les alliés. Donc c'est vraiment le jeu coopératif, c'est-à-dire qu'au début du jeu, vous allez forcément vous entraider pour essayer d'aller chercher de l'eau, pour essayer d'aller chercher de la nourriture, hein, etc., etc. Mais au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas tous partir, hein, parce qu'il n'y aura pas assez de place sur le radeau, pas assez d'eau, pas assez de bouffe. Et donc, vous allez commencer à vous tirer dans les pattes. Voilà, donc le but du jeu, c'est de trouver cet équilibre entre je joue coop, mais pas trop non plus. Voilà, c'est une forme de Koh-Lanta un petit peu. En vrai, un vieux slip permet aussi d'abattre ses adversaires et c'est silencieux. Tout à fait, Jérôme. Je n'ai clairement pas envie de tomber avec toi dans une île déserte, voilà. Si le slip a été porté, ça peut être une arme, tout à fait. Le vieux slip avec sert avec l'extension, c'est vrai, tout à fait. On n'en dira pas plus, Sylvain, mais c'est vrai, tu as raison. Voilà, moi ce que je vous recommande par rapport à Galerapagos, c'est de ne pas y jouer à trop de joueurs. Je trouve que le jeu perd un peu de sa saveur quand vous commencez à être plus de 5, dans le sens où les gens seront moins investis. De toute façon, il y a beaucoup de jeux qui peuvent se jouer à beaucoup de joueurs, mais je trouve que au-delà d'un certain nombre de joueurs, ça c'est un peu l'effet inverse et les gens ont tendance à moins s'investir et à moins être concentrés. Donc c'est vraiment un jeu que je vous recommande à partir de entre 3 et 5 joueurs, je trouve que c'est trop bien. Voilà. Et l'extension, vous pouvez commencer avec le jeu de base qui est déjà très rigolo, mais l'extension apporte des événements tous les jours. Par exemple, vous avez des indigènes qui peuvent vous attaquer, donc vous allez avoir potentiellement soit un joueur qui meurt, soit vous sacrifiez de la nourriture. Vous allez avoir plus d'items. Je trouve que c'est plus intéressant l'extension, parce que vous allez avoir dans votre main en général plus d'objets, etc., etc. Moi, je le préfère à nombreux Galéapagos. J'ai pas compris ton message, Sylvain. Tiens, j'y ai joué hier soir, j'adore ce jeu. Achetez vos jeux de cases sur les brocantes ou dans les boutiques spé, d'ailleurs ça ne va pas rendre service au monde du jeu. Tout à fait. Non mais voilà, c'est bien pour la planète, c'est bien pour votre porte-monnaie. Après, le seul truc que je vous conseille, c'est si vous voulez faire un joli cadeau à quelqu'un avec un jeu vraiment neuf et tout ça, eh bien, évidemment prenez un jeu neuf, faites-en un joli cadeau. Mais si les jeux sont pour vous, prenez les deux cases. Prenez les deux cases, clairement. Voilà. Normal, plus on attend avant de pouvoir jouer, moins on reste focus. Exactement. D'ailleurs, autre conseil que je vous donne d'expérience un petit peu de plusieurs soirées, c'est très important de ne pas forcer des jeux de société dans des soirées. C'est-à-dire qu'il faut vraiment lancer un jeu de société si les gens sont motivés pour faire un jeu de société. Et il ne faut pas forcer s'il y a une personne. À partir du moment où il y a une ou deux personnes qui disent « Ah, bof !» Voilà, ne faites pas un jeu de société. Et vous en ferez. Et invitez des gens spécialement chez vous pour jouer à des jeux de société. Je le dis pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de jouer. Vraiment. Voilà. Et notamment, le jeu tue l'ambiance en soirée, c'est le Loup-Garou. Moi, j'ai toujours trouvé que le Loup-Garou était le jeu qui endormait les gens en soirée. Parce qu'il faut fermer les yeux pendant la nuit, ça dure longtemps. Et en fait, je trouve que le Loup-Garou, si t'es pas un minimum investi, tu te fais vite chier et t'as la flemme après. Bref. Voilà, c'était la petite tartine jeu de société. Donc, petit récap, je vous ai parlé de Skulking, un jeu de pli avec une ambiance de pirate. Je vous ai parlé de Mysterium, un Cluedo en vraiment beaucoup mieux. Et je vous ai parlé de Galerapagos, un jeu de coopération, mais pas trop. Un Koh-Lanta de coopération, mais pas trop. Voilà. Je vous propose qu'on passe tout de suite au camp de fax. C'est parti. Donc voilà, c'est le moment de l'émission où vous pouvez poser vos questions. Donc je suis totalement à l'écoute. On peut parler de photos, on peut continuer à parler de jeux de société, on peut parler un petit peu de vie privée, c'est comme vous voulez. Pas de questions Platinium. Et très bien, merci Samuel ou Jérôme, je ne sais pas qui m'a précisé ça. Mais merci à l'un de vous deux. Eh bien avec plaisir Jérôme, moi j'aimerais beaucoup qu'on se fasse des jeux de société quand on monte à Paris. Je sais pas si tu as beaucoup joué récemment, mais je pourrais t'initier à pas mal de nouveaux jeux. Ça pourrait être cool. Et d'ailleurs, un des trucs qu'on aimerait faire là dans les streams Twitch du mercredi avec Jérôme et Karina et Yanis et peut-être Marion d'ailleurs, ça serait de faire des jeux de société et notamment des mini-jeux de rôle. Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Château Aventure. Donc ça, je l'ai pas présenté dans l'émission parce qu'on le fera sûrement sur Twitch. Allez d'ailleurs suivre notre Twitch, hein, Nowtech QG. Voilà, parce que on a fait un Worms hier et c'était très très fun et on va sûrement faire des petits jeux comme ça. Est-ce que c'est bien une Ring Light? Alors moi Ryan, je suis pas très très fan des éclairages type Ring Light. Je préfère des éclairages du genre ce genre-là. Attends, je vais te montrer. Je sais que moi j'ai des panneaux LED qui coûtent pas cher, qui voilà, je pense que Albert de SOS Ciné ou peut-être même Jérôme dirait que c'est pas les plus parfaits en termes de couleurs, mais voilà, c'est celui-là, le panneau LED que j'ai. Il coûte sur Amazon, c'est le Pixel panneau LED P50. Ce genre de truc-là, enfin de panneau LED sur Amazon, tu les as pour 60 euros à peu près, un truc comme ça. Un peu plus peut-être, 60-70 euros. Et je trouve que ce sont de bien meilleurs investissements. Je regarde, hein, voyons voir. Putain, il est même sur Alibaba. Ah non, il n'est pas du tout sur Alibaba. Ok, je sais pas. Mais je trouve que ce sont de bien meilleurs investissements parce que c'est des panneaux LED qui sont assez plats. Ah, attends, j'arrive pas à... Attends, Amazon.fr. Voilà, évidemment, attendez. Ah, il est plus sur Amazon. Il y était une époque. Ah, mince, il y est pas. Bref. Bon, sinon, il y a des vidéos aussi sur la chaîne, sur Nowtech, où on vous conseille des panneaux LED. Hein. Enfin, des lumières, il me semble qu'il y avait une vidéo comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur la chaîne. Mais ces panneaux LED-là sont vraiment... moi, j'en ai deux. C'est ceux qui m'éclairent là et je trouve que la lumière est très cool. On peut régler la température, on peut les contrôler à distance si on a une télécommande. On peut les synchroniser les lumières. Donc on peut être sûr d'avoir la même température tout le temps. Enfin voilà, moi c'est des panneaux que j'aime beaucoup et que je recommande. Les Pixel P50. Voilà. Et pas les Ring Light. Les Ring Light, je trouve que l'éclairage, il est souvent pas terrible. On en parle de Twitter qui pense pas aux sourds et malentendants avec sa nouvelle fonctionnalité audio sans transcription. Ah merde! Bah pour le coup, j'ai pas du tout vu passer ça, mais je veux bien que tu développes un peu, Yann Gonzalez, je suis curieux de savoir. Ah oui, t'as copié deux fois ton message. Ouais, je veux bien que tu développes un petit peu. YouTube à moins de 400 euros, les panneaux LED sont bien. Tout à fait. C'est la vidéo, ouais, exactement. Mon jeu préféré, Dominion. Ah, attends, par contre, il y avait le jeu tout à l'heure de Obscurio. Voilà, je veux pas le perdre, celui-là. Je vais regarder, parce qu'il a l'air... Ah ouais, j'aime bien la boîte du jeu. Écoute, je vais me le mettre sur... Voilà, mes messages enregistrés. Hop. Super, parfait. On peut tweet des audios. Ah, il n'y a pas de transcription sur les trucs audio. D'accord. Ah oui, c'est pas cool, ouais. Tout à fait. Le Lightroom Discover, tu trouves ça sur le net ou c'est dans le logiciel? Non, tu n'as même pas besoin d'avoir un compte, je crois. Adobe Discover, tu vas sur cette URL-là. Attends, toutes. Tu vas ici et tu n'as pas besoin de te connecter ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant. Il ne faut pas lancer un strip poker avec sa mamie. Oui, tout à fait. Je conseille vivement Takenoko. Je l'ai vu passer ce jeu, Jien Azaki. Azaki, ouais. Je l'ai vu passer, mais je ne me rappelle plus les règles. Ouais. Mais ça va bien, et toi, Norix? Ça va bien. Lundi soir, after keynote. Oui, avec Jérôme, on fait l'after de la keynote sur Twitch. Donc pareil, allez vous suivre notre Twitch. On va être un peu pénible un peu avec Twitch, mais c'est vrai qu'on va faire de plus en plus de streams là-bas pour vraiment dissocier la chaîne YouTube des productions vidéo à proprement parler et les lives. Donc les lives vont vraiment être sur Twitch, qui est une plateforme bien plus adaptée aux lives, et les vidéos vont être sur YouTube, qui est une plateforme bien plus adaptée aux vidéos. Voilà. Tu penses quoi du jeu Vampire The Masquerade Vendetta? J'ai pas joué. Oui, j'ai vu les changements d'icône sur Adobe. Ouais, j'ai vu que Lightroom avait changé d'icône, et j'aime bien la nouvelle icône. Je la trouve assez sobre, assez jolie. Sur Board Game Arena, tu as Rallyman qui vient d'arriver. Oui, apparemment, il est vachement bien, Rallyman GT. J'ai un pote qui ne jure que par ça au boulot. Damien, si tu m'écoutes, bonjour à toi. D'ailleurs, Damien, qui est un gars au boulot, qui m'a présenté plein de jeux de société. Je connais pas le jeu des marchands du Nord, Stéphane Samour. Dit-il en faisant un live sur YouTube. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On n'a pas encore fini les photos du confinement. Moi, le lundi en journée, je ne serai pas dispo. Donc peut-être que Jérôme continuera à faire ça. Ouais, il est 9h, ben on va arrêter là, mesdames et messieurs. On va arrêter à l'heure, c'est magnifique. Je vous fais de gros bisous. Et donc, normalement, on va se retrouver. Moi, a priori, je ne vais pas trop streamer ce week-end, je pense. Mais on se retrouve lundi sur Nowtech QG, sur le Twitch, pour parler d'Apple et de la keynote, qui, je pense, va être une super keynote très intéressante. Donc, je suis très hâte de la suivre avec Jérôme. Voilà, des gros bisous tout le monde. Ciao et à la semaine prochaine. Bye!